États-Unis, anatomie d'une démocratie.
3 ans après la prise du Capitole, la démocratie américaine est fragile, violente et au bord du chaos. Kamala Harris comme Donald Trump prétendent vouloir la sauver. Mais quelle est la véritable histoire de cette démocratie? Un modèle ou une utopie jamais réalisée?
Thomas Negaroff.
6 grandes dates, 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historien Romain Huret.
Épisode 2. 1898, la tentation impériale.
Nous avons écrasé un peuple trompé et confiant. Nous nous sommes retournés contre des peuples faibles et sans amis. Nous avons volé à un ami de confiance sa terre et sa liberté. Nous avons débauché l'honneur de l'Amérique et noirci son visage devant le monde. Mark Twain, 1901. Romain Huret, on continue notre conversation sur la démocratie américaine. Plein de gens seront sûrement surpris d'entendre Mark Twain, qu'on associe toujours à Huckleberry Finn et à Tom Sawyer, prononcer des propos aussi politiques et aussi durs envers son pays. Peut-être pour commencer, me dire qui est Mark Twain ?
Mark Twain, c'est sans doute l'un des plus grands écrivains du 19e siècle. Il est extrêmement connu, c'est une très grande figure publique qui réinvente la langue anglaise et qui va créer des personnages qu'on connaît bien en France puisqu'ils ont été adaptés dans la culture populaire.
Quand on est vieux comme nous, on sait.
En tout cas, un personnage vraiment fascinant et qui devient une sorte d'intellectuel en quelque sorte. Il prend régulièrement la parole pour dénoncer ce qu'il voit comme un changement de la République qu'il aime bien. Une République agraire, frugale, une République des premiers temps, la République des pères fondateurs en quelque sorte. C'est Tom Sawyer, ce personnage qui vit à l'air libre, qui gambade.
Qui est libre, la liberté.
La liberté, exactement, tu vas peut-être chanter. en tout cas, il y a une vraie envie de croire que cette Amérique agraire, cette Amérique rurale est l'Amérique. Et l'Amérique éternelle est une vision qui a été voulue par les pères fondateurs et qui doit continuer à être telle qu'elle. Twain perçoit parfaitement que quelque chose est en train de changer. Il va être l'auteur d'une formule très connue, Gilded Age, âge du toc, pour décrire la transformation du pays dans les années 1870-1880, après la guerre de sécession dont on a parlé et le triomphe du modèle économique capitaliste du Nord. On voit apparaître l'industrialisation, on voit apparaître des très grands groupes.
Des grandes villes aussi.
Des grandes villes. Ce que certains appellent la modernisation. Le pays se modernise à très très grande vitesse. Et Mark Twain n'aime pas ça. Il a l'impression qu'on trahit les idéaux fondateurs, qu'on crée des gens dont le seul objectif est de s'enrichir. Ils ne sont pas très intéressants, ces millionnaires qui maintenant sont ravis d'exposer à New York et ailleurs leurs très beaux immeubles.
Il faut dire que c'est la fin aussi de ce qu'on appelle la frontière. C'est la fin de l'idéal pionnier d'une Amérique qui avance. Désormais, elle avance moins, elle est plus sédentaire, elle grossit, c'est moins un idéal de force et de vitalité de Tom Sawyer, là.
Elle grossit, elle s'enrichit en tout cas de manière très visible. Et Mark Twain, dans la citation que tu as présentée, ajoute...
Je redonne les mots. Nous avons débauché l'honneur de l'Amérique et noirci son visage devant le monde. C'est quand même énorme.
Mark Twain fait partie de ce qu'on appelle les anti-impérialistes, puisque l'autre trahison des idéaux fondateurs, c'est le basculement d'une Amérique qui se voulait isolationniste à une Amérique qui va être ouvertement impérialiste. Mark Twain n'aime pas cela du tout. Il est persuadé que l'Amérique doit rester fidèle à ce qu'on appelle la doctrine Monroe, du nom d'un président états-unien.
Des années 1820,
la doctrine date de 1823. Et Monroe souhaitait mettre en place une Amérique qui se tient à l'écart des affaires du monde. Et en cela, il rejoint la pensée des pères fondateurs qui avaient l'impression, et on l'a dit dans le premier épisode, que l'Amérique était un peu exceptionnelle. Cette république au milieu des monarchies, en 1823, on est après le congrès de Vienne, et donc on est dans un monde où la monarchie est restaurée en Europe, les grandes puissances européennes se lancent dans l'aventure impériale. Cette république états-unienne fait un peu figure d'exception dans le paysage mondial. Et donc Monroe dit on aurait plutôt intérêt à se tenir à l'écart des affaires du monde.
A city upon a hill.
Exactement.
La ville sur une colline un peu à l'écart.
Alors cette idée, elle apparaît progressivement. Elle apparaît, et tu l'as mentionné, avec la fin de la frontière, cette conquête de l'Ouest. où on voit bien à un moment tous les territoires ont été conquis, hein, et la population amérindienne va être mise dans des réserves, hein, massivement, donc il n'y a plus rien à conquérir.
Donc on est fin 19e.
Fin 19e, hein, et donc on commence à réfléchir à aller ailleurs. Et le premier épisode, et Twain y fait référence, c'est 1898. C'est la guerre à Cuba. Cuba est alors une possession de l'Empire espagnol et les Américains décident d'y aller et rompent en quelque sorte avec cet espoir isolationniste, hein, pas d'intervention. Et aujourd'hui, on voit dans 1898, dans Cuba, le démarrage de cette Amérique impériale, hein, le moment fondateur, où tout d'un coup, on va basculer vers ces 13 petits États qui avaient peur de survivre à l'avenir, à un pays qui va progressivement devenir la première puissance mondiale et qui va mettre ses billes et ses canons un peu partout dans le monde.
Oui, mais ce qui est fascinant, c'est qu'en 1898, quand les États-Unis interviennent à Cuba, c'est au nom des idéaux démocratiques. Donc, qu'est-ce qui anime les Américains de l'époque ? Est-ce que c'est l'impérialisme dans sa version la plus forte, la plus dure, à savoir d'augmenter sa puissance pour augmenter sa puissance et donc sa richesse peut-être, ou bien, encore une fois, une autre manière de penser son exceptionnalisme, de la vivre différemment, d'aller, par la violence peut-être, mais d'aller chasser des autocrates et d'y favoriser des mouvements démocratiques, parce que c'est ce qui se passe aussi à Cuba.
Tu as tout à fait raison. En 1898, on invente un concept qu'on va beaucoup voir apparaître ensuite dans l'histoire des États-Unis, qui est celui de guerre juste.
Oui.
Il y a des mauvaises guerres, il y a des bonnes guerres. Et en 1898, on va expliquer que c'est une bonne guerre. D'aller à Cuba, il faut aider des populations.
Qui appellent à l'aide.
Qui appellent à l'aide. Et donc, il y a une justesse au conflit. Et on verra réapparaître régulièrement cette idée de bonne guerre pendant la Première Guerre mondiale. Hein. Wilson parlera de la DDR. Il dira, voilà, on n'a pas d'autre choix que d'y aller si on veut être fidèle à la démocratie, aux valeurs démocratiques. Nous devons aller combattre.
Pareil en Irak.
Et on verra ensuite systématiquement. Hein, et au Vietnam, même chose, pendant très longtemps. On expliquera que c'est une bonne guerre. On expliquera aussi que la Seconde Guerre mondiale est une bonne guerre, avec toute une construction d'un discours patriotique. Hein. On sera très sensible à chaque fois à mettre en avant des bataillons spécifiques. Pendant la guerre à Cuba, on mettra un bataillon mythique en scène, qui est celui des Rough Riders. De Theodore Roosevelt. Voilà, s'il y a des amoureux, amoureuses de la bande dessinée, les aventures épiques des Rough Riders ont été immortalisées. Hein. C'est Theodore Roosevelt qui
Avant qu'il soit président,
hein, qui dirige ce bataillon, mais qu'on présente comme la quintessence de ce qu'il y a de mieux aux États-Unis. C'est un meneur d'hommes, et donc on a dans les Rough Riders les meilleurs hommes aux États-Unis, un melting pot de ce que l'Amérique peut faire de meilleur. Et on verra réapparaître pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre du Vietnam au début en tout cas, cette idée qu'il y a des bonnes guerres. Et que la guerre est démocratique et qu'on envoie des bataillons de bons Américains combattre, même si ces bataillons sont ségrégés, même s'il y a encore, on voit très bien tous les limites de la démocratie dans l'exercice même de la guerre. Hein. Les Afro-Américains, par exemple, seront encore ségrégés pendant la Seconde Guerre mondiale et ils vivront dans leur chair tout le paradoxe des pères fondateurs, tout le paradoxe des États-Unis, qui à la fois leur demande de combattre pour la démocratie contre le Japon et contre l'Allemagne nazie. Et dans le même temps, quand ils rentrent dans les États du Sud, ils sont considérés comme des chiens, ils n'ont aucun droit à pouvoir circuler comme ils le souhaitent ou s'inscrire sur les listes électorales. Donc il y a une... À nouveau, on est dans cette représentation d'une démocratie parfaite. Hein, et dans le même temps, il y a des contradictions qui sont très fortes, hein, à la fois dans l'armée elle-même, mais aussi dans les enjeux des guerres et les raisons qui poussent les Américains à les combattre.
Mais sont-ils sincères, ces dirigeants américains, quand ils parlent de démocratie ? Parce que, à écouter Mark Twain, nous avons écrasé un peuple trompé et confiant. C'est-à-dire qu'on s'est servi de l'argument démocratique, selon lui, pour en réalité servir des fins qui sont plus politiques, plus de puissance et moins démocratiques. Comment est-ce que l'historien que tu es fait la part des choses entre les discours et la réalité ?
L'historien que je suis, il est modéré sur la question. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des acteurs, souvent des chefs d'État, des organisations syndicales, des associations pacifistes, qui croient à ce discours, qui croient fortement à cette vision messianiste des États-Unis. Et je crois qu'on aurait tort de ne pas le voir, de ne pas entendre ça. ça peut choquer dans un pays comme la France, par exemple, beaucoup plus laïque hein, et plus sécularisé. On n'a pas l'habitude d'entendre cela, mais on en a peu parlé. La démocratie américaine est une démocratie où le religieux est très présent. Les présidents aux États-Unis prêtent serment sur la Bible hein, et finissent toutes leurs allocutions par « In God we trust hein, ». Nous faisons confiance au Seigneur, à Dieu. Et donc, on a une vraie présence, hein, prégnance de la religion dans la vie publique, dans la vie politique. Et donc, beaucoup de gens vont croire à ça, vont croire que le communisme était le mal absolu,
oui, hein, c'est ça.
Était un fléau, était antichrétien, et donc il fallait combattre contre le communisme. Ceci étant dit, je ne suis pas naïf comme historien, et Twain ne l'est pas non plus comme intellectuel. Il y a des intérêts économiques évidents. Cuba annonce hein, toute une série d'interventions militaires en Amérique centrale des États-Unis avec des objectifs économiques qui sont très forts. On verra aussi les fonds de philanthropie états-uniennes aller en Amérique centrale hein, pour aider les populations à des fins économiques. Hein. On va soigner, on va éradiquer des maladies, etc., pour permettre le développement de l'agriculture extractive hein, et intensive hein, pour alimenter les filières agroalimentaires dans le pays. Donc, je ne suis pas du tout naïf, mais je pense qu'on peut y voir de l'oppression, on peut y voir du cynisme, du strict calcul économique.
Mais il ne faut pas non plus
oublier. Il ne faut pas oublier.
Dimension sincère et religieuse.
Ils sont sincères et religieuses. Ouais. Et ça rejoue hein, avec la guerre du Golfe, hein, la deuxième guerre du Golfe, où on peut avoir une double lecture de ce qui s'est passé. Hein. On peut voir George Bush comme un pur cynique, comme un pur cynique qui n'a envoyé des troupes en Irak que pour des raisons économiques.
Le pétrole.
Et de pétrole, etc. Ouais. À mon avis, on aurait tort. Ça joue, hein. Ne soyons pas naïfs, hein. Des grandes entreprises sont allées sur place, Halliburton et d'autres. Il y avait des enjeux économiques qui étaient colossaux, mais il y avait, je pense, autour de lui, des électeurs, des électrices qui étaient convaincus que l'Amérique devait apporter la démocratie dans le monde arabe et que c'était sa mission sur Terre.
Il y a une dimension que j'aime bien, qui est sous la plume de l'historien Michael Rodgin. Je pense que tu as lu ça, il est mort aujourd'hui, mais il avait publié un livre sur les démons de l'Amérique et il montrait à quel point les États-Unis, depuis leur origine, construisent des démons, la démonisation, à qui on confère une puissance extraordinaire qui justifie du coup la puissance américaine, y compris violente.
Tout à fait, et on en revient aux peurs des pères fondateurs. Hein. La chute de la République, un modèle qui peut très rapidement disparaître, et donc il faut sans cesse le défendre contre des ennemis visibles ou invisibles.
C'est ça.
Et chaque génération aux États-Unis va réinventer ses ennemis, et va nourrir de nouvelles peurs hein, et engager les troupes aux États-Unis de manière durable et parfois très problématique.
J'aimerais qu'on termine l'épisode avec le Vietnam. Parce que la guerre du Vietnam, c'est peut-être la première fois, peut-être même la seule fois, où une guerre a été à ce point l'objet de contestations en interne, où le discours de la peur, de la cause juste, le discours de la démocratie qu'on amenait à un pays qui ne l'était pas, a montré ses limites.
Pour la première fois s'est déroulée aux États-Unis une marche de protestation massive contre la guerre au Vietnam. À Chicago, à Washington et surtout à New York, les pacifistes sont descendus dans la rue en arborant le drapeau du Viet Cong. Plusieurs jeunes Américains ont brûlé leur livret militaire devant quelques 150 000 manifestants qui ont entendu ensuite plusieurs orateurs, dont le pasteur Martin Luther King, prix Nobel de la paix, réclamait devant le siège des Nations Unies l'arrêt des bombardements sur le Nord Vietnam et l'ouverture immédiate de négociations.
C'est la dernière guerre de conscrits, il ne faut pas l'oublier. C'est la dernière fois qu'on va faire appel massivement aux citoyens soldats pour combattre. C'est la dernière fois, on arrêtera ensuite. Hein. Aujourd'hui, l'armée des États-Unis est une armée en grande partie professionnelle. Et donc, on va très vite voir des jeunes soldats qui sont envoyés sur place et qui vont voir dans l'arrivée au Vietnam et dans l'ensemble de l'enrôlement dans l'armée des États-Unis, hein, tous les paradoxes de la démocratie états-unienne. Les Afro-Américains vont avoir l'impression d'une guerre qui n'est pas la leur et à nouveau d'une aberration démocratique. On leur parle de démocratie alors que on est loin du compte dans leur propre pays, donc tout ça est assez absurde. Ouais. On verra les plus pauvres aussi, puisque les hommes qui vont partir sont souvent issus de l'Amérique pauvre, hein, les plus diplômés, les plus riches, échappant souvent au service militaire et à la conscription. Et eux-mêmes ne vont pas se reconnaître finalement dans cette guerre, ne vont pas comprendre quel est le but réel de la guerre. Et donc on va voir un taux d'absentéisme, de malaise, de consommation de drogue tout à fait exceptionnelle, qui va profondément marquer l'armée aussi, hein, puisque c'est une défaite, hein, la première défaite depuis Cuba, hein, pour les États-Unis. Et donc, on va appeler à une réforme en interne. Mais aussi, on va perdre quelque chose qui était très important dans les années 70. C'était cette culture de la victoire qui nourrissait la guerre juste, qui nourrissait le combat pour la démocratie. Pour la première fois, beaucoup d'Américains vont dire « ce n'est pas une guerre juste, l'État nous a menti », et beaucoup de lanceurs d'alerte révéleront les mensonges de l'État. La guerre n'est pas juste, et finalement, on a peut-être conduit dans le passé beaucoup de guerres qui ont été menées sous des prétextes fallacieux, et il faut peut-être à chaque fois réfléchir au véritable but de guerre pour éviter à nouveau désastres et bourbiers comme le fut le Vietnam.
Peut-être que le néo-isolationnisme aujourd'hui trouve ses racines dans ces interrogations que tu évoquais à l'instant. Dans le prochain épisode, on va revenir sur, pour le coup, la guerre juste pour les États-Unis, la Seconde Guerre mondiale, et ce qu'elle traduit aussi peut-être des ambiguïtés américaines concernant sa démocratie. États-Unis, anatomie d'une démocratie, est un podcast original de France Inter.